Bonjour, bonjour à tous, mars 2018, les gens le disent, le ciel le dit également, le printemps est un peu de retour on dirait, et nous sommes également nous de retour comme chaque mardi pour les voix de service, nous c'est moi Louis de Bernice et mon compère Jean-Charles Algan.
Bonjour, bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Très très bien, merci beaucoup, et vous ?
Oh mais moi toujours, toujours bien naturellement. Quel est le programme aujourd'hui ? Qu'avons-nous comme article, Jean-Charles ?
Alors, un petit tour d'horizon des grandes tendances qui marquent le tourisme en 2018. Ensuite, le sirop d'érable québécois vers de nouveaux marchés. Mmh. Et en immobilier, ces étudiants d'ailleurs qui achètent ici.
Excellent. Pour ma part, nous donnerons dans l'insolite, comme d'habitude. Nous parlerons du nouveau passeport post-Brexit au Royaume-Uni. Par qui sera-t-il fabriqué ? Ben pas par des Anglais, par des Français. Nous parlerons également du cricket australien secoué par un scandale. Si vous n'en avez pas entendu parler, ça n'est pas normal et je vais vous en parler. Nous parlerons également d'un nouveau sport assez à la mode qui mixe les échecs et la boxe. À suivre dans les voies de service.
Voyage solo dans le Grand Nord ou au Moyen-Orient, tour d'horizon des grandes tendances qui marquent le tourisme en 2018 à l'occasion du Salon international du secteur à Berlin, inauguré le 6 mars. Pas froid aux yeux, les grandes tendances, moment privilégié des voyages, s'organisent de plus en plus au cœur de l'hiver. 4 Américains sur 5 envisagent de partir loin en hiver selon un sondage de l'Institut Harris. L'offre s'étoffe dans les pays du Grand Nord, cercle polaire, Laponie ou Groenland. Et les touristes n'ont plus froid aux yeux, notamment en ce qui concerne leur hébergement. Une des tendances les plus marquées de l'année sera la multiplication des hôtels igloos, faits de blocs de glace sculptés et de tout confort. Voyage professionnel ou d'agrément, ils sont de plus en plus nombreux à refuser de trancher et les travailleurs en goguette n'hésitent plus à prolonger leur séjour pour s'accorder un peu de détente. Selon une étude de la plateforme Travelport, la génération des 18-34 en passe de devenir le premier groupe d'âge de touristes au monde devant les baby boomers, dit prolonger régulièrement ses séjours de travail de quelques jours. Cette génération n'hésite pas non plus à partir en vacances sur son temps de travail. La flexibilité de l'emploi, la multiplication des statuts d'indépendants et le télétravail leur permettent de se brancher de n'importe où, y compris de la plage. Cette évolution pousse l'hôtellerie à offrir une connectivité irréprochable. La Thaïlande entend devenir le royaume des travailleurs nomades et a lancé en août un vaste plan d'investissement dans ses infrastructures Internet, y compris sur les îles les plus reculées. Chambre simple, non surtaxée, application pour partager sa table ou trouver des compagnons d'excursion à la dernière minute, la tendance du voyage en solitaire émerge depuis 2014, mais 2017 a vu fleurir des guides intitulés « Voyager seul en… » Les femmes représentent 63% de ces voyageurs solos contre 36% d'hommes, selon une étude menée sur le site booking.com. Les voyageurs solos cherchent principalement à se ménager un temps durant lequel ils ne sont plus responsables des besoins des autres, mais seulement des leurs, note le site spécialisé Solo Traveler. Le voyage éco-responsable, qui consiste à limiter au maximum son empreinte environnementale, s'impose en 2018 comme un standard pour l'ensemble de l'offre touristique et plus seulement pour les labels ou les voyagistes spécialisés. En 2018, il devient de plus en plus rare de trouver une vaste baignoire dans sa salle de bain d'hôtel, y compris dans de luxueux hébergements, note le magazine spécialisé Travel Weekly. En Afrique du Sud, où la sécheresse sévit, les hôtels réduisent au maximum leur buanderie avec des linges de table en papier ou des draps lavés moins souvent. La Norvège envisage de son côté d'imposer aux bateaux de croisière voguant entre les spectaculaires fjords du pays de recourir à des carburants plus propres, sous peine d'amende. Le Moyen-Orient repart le classement de l'Organisation mondiale du tourisme des pays qui ont le plus progressé pour le début 2017 réserve quelques surprises. La Cisjordanie occupée, où le célèbre artiste Banksy a ouvert un hôtel, a vu croître de 57,8% au premier trimestre de l'an dernier le nombre de visiteurs passant au moins une nuitée sur place, décrochant la première place de ce palmarès. Suivent en deuxième position l'Égypte, plus 51%, redynamisée par le retour de certaines liaisons aériennes, et en cinquième place la Tunisie, plus 32,5%, qui mise sur des séjours tout compris au prix imbattable et séduit à nouveau après les attentats de 2015 à Sousse et au Bardo.
Et pour effectuer tous ces merveilleux voyages, il vous faudra sans doute un passeport. Si vous êtes britannique, il vous faudra un nouveau passeport, puisque ça ne vous a pas échappé, le Royaume-Uni est en train de sortir de l'Union européenne. Et ce nouveau passeport, si vous êtes britannique, ce nouveau passeport, eh bien, il sera fabriqué, mais pas au Royaume-Uni. C'est une nouvelle tirée de la presse, datée du 22 mars. Le passeport post-Brexit sera fabriqué par une entreprise, roulement de tambour, française. Le nouveau passeport que les Britanniques utiliseront après le Brexit devrait être fabriqué par une entreprise française, rapportait jeudi la presse britannique, un choix vécu comme, je cite, « une humiliation nationale » par les partisans de la sortie de l'Union européenne. Selon le quotidien conservateur The Telegraph, le spécialiste français de la sécurité numérique Gemalto serait sur le point de remporter l'appel d'offres lancé par le gouvernement britannique, devançant l'entreprise britannique Delarue, qui assurait jusqu'à présent la fabrication des passeports. C'est une décision surprenante et décevante, a réagi sur la BBC Martin Shutterland, patron de Delarue. Quand je pense que nous avons entendu ces dernières semaines des ministres venir joyeusement dans les médias pour parler des passeports bleus et du fait que ce passeport bleu était une icône de l'identité britannique, a-t-il ajouté, en référence au fait que les futurs passeports abandonneraient la couleur bordeaux en vigueur au sein de l'Union européenne pour revenir à leur bleu emblématique d'antan. Maintenant, cette icône de l'identité britannique va être fabriquée en France, a-t-il regretté, invitant la Première ministre Theresa May à venir dans son usine pour expliquer à ses employés, dévoués, pourquoi elle pense que c'est une décision sensée de délocaliser la fabrication d'une icône britannique. Un porte-parole du ministère britannique de l'Intérieur a souligné que l'entreprise sélectionnée l'avait été à l'issue d'une compétition rigoureuse, juste et ouverte, qui permettait d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour les contribuables. Il a précisé que la proposition de l'entreprise sélectionnée, qu'il n'a pas voulu nommer, permettait d'économiser 120 millions de livres tout de même, d'argent public, et que les passeports britanniques ne sont plus forcément tous fabriqués au Royaume-Uni depuis 2009 déjà. Gemalto a de son côté déclaré ne pas pouvoir faire de commentaires à ce stade, la procédure étant toujours en cours et les termes du contrat étant confidentiels. L'affaire a rapidement tourné à la polémique et provoqué la colère des pro-Brexit, dont beaucoup ont voté lors du référendum de juin 2016 pour reprendre le contrôle de leur économie, y compris de ce type de marché public. Ce devait être un moment de célébration, le retour de notre emblématique passeport bleu, le rétablissement de l'identité britannique, a déclaré l'ancienne ministre conservatrice Priti Patel. Confier cette tâche aux Français est tout simplement stupéfiant, c'est une humiliation nationale, a-t-elle ajouté. L'affaire suscitait également moult réactions sur les réseaux sociaux via le mot-clé « Passportgate ». Une définition de l'ironie, nous quittons l'Union européenne et le gouvernement attribue la fabrication du nouveau passeport britannique à un pays de l'Union européenne, a notamment tweeté Nick Drews.
She's got a ticket to ride. She's got a
Beatles, Ticket to Ride.
Le sirop d'érable québécois vers de nouveaux marchés dans l'actualité alimentaire. En février dernier, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Laurent Lessard, et le président de la Fédération des producteurs acéricoles, Serge Beaulieu, ont procédé au lancement de la saison des sucres 2018. À l'arrivée du printemps, les producteurs acéricoles du Québec lancent la saison des sucres 2018 avec une première entaille effectuée par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Fort d'une récolte record en 2017, les acériculteurs souhaitent poursuivre leur croissance et gagner de nouveaux marchés. On pense qu'il y a des opportunités de développer notre marché et il faut les prendre, s'est exclamé le président de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, Serge Beaulieu, alors qu'il lançait la saison des sucres à l'érablière du parc de boîtes de Coulonges à Québec. Plusieurs indices permettent à l'industrie de croire à une expansion dans les prochaines années. La récente entente de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne qui prévoyait l'abolition du droit des douanes de 8% sur le sirop d'érable exporté en Europe devrait faciliter la commercialisation du sirop canadien vers le vieux continent. Le retrait des États-Unis dans le partenariat transpacifique permet aux producteurs acéricoles d'être optimistes quant à leur avenir en Asie. Ça nous donne un avantage stratégique puisque le sirop américain n'y sera pas. Le ministre Lessard ajoute que le gouvernement a l'intention d'aider l'industrie à se développer pour saisir les occasions de développement qui s'offrent à elle, notamment en offrant des prêts aux producteurs. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec souhaite atteindre les 84 millions de kilogrammes vendus en vrac d'ici 2023. Elle en a vendu 53 millions de kilogrammes en 2017. L'acériculture québécoise en quelques chiffres. Nous avons donc 13 700 acériculteurs, dont 282 nouveaux producteurs depuis 2017. 45 millions d'entailles, 12 régions acéricoles, 10 000 emplois à temps plein, 600 millions de dollars à l'économie du Québec, 250 000 barils de sirop d'érable produits annuellement. Par rapport au défi du plomb, une nouvelle entente entre la Californie oblige les producteurs québécois à réduire de beaucoup la quantité de plomb dans le sirop d'érable d'ici 2020. La plupart des propriétaires d'érablières vont devoir investir des dizaines de milliers de dollars pour éliminer de leurs installations tout ce qui contient du bronze, du laiton ou des soudures au plomb. Le propriétaire de l'érablière du Cap à Saint-Nicolas, Jean-Paul Tardif, souligne que les sièges sociaux de plusieurs multinationales comme Walmart et Costco sont en Californie. Ce sont donc des ventes considérables qui sont en jeu avec cette nouvelle entente. Ils veulent un sirop qui ne contient pas de plomb. Le sirop en contient naturellement, dit Jean-Paul Tardif, propriétaire de l'érablière du Cap. L'accord conclu en 2014 prévoit que tous les producteurs acéricoles de la province doivent faire passer d'ici octobre 2020 la teneur en plomb du sirop d'érable à moins de 11 parties par milliard. Il s'agit d'une norme 20 fois plus sévère que celle du Québec, qui est de 250 parties par milliard. Les producteurs acéricoles du Québec demandent donc l'aide financière des gouvernements fédéral et provincial pour modifier leurs équipements.
Et après l'érablière du Cap, je vous emmène au Cap, mais celui qui est un petit peu plus connu, je crois, en Afrique du Sud, où un scandale a éclaté qui entoure l'équipe de cricket australien. Le monde du cricket australien était accablé dimanche par un retentissant scandale de balles trafiquées lors d'un match en Afrique du Sud, de nombreuses voix réclamant la tête des coupables. Le capitaine de l'équipe nationale australienne, Steve Smith, et son coéquipier Cameron Bancroft ont semé la consternation quand ils ont reconnu avoir délibérément tenté d'altérer l'état de la balle lors du troisième test match contre l'Afrique du Sud au Cap samedi. Bancroft, 25 ans, a reconnu s'être servi deux rubans adhésifs, afin de recueillir des particules abrasives sur le terrain et en frotter la balle, de façon à les rafler et ainsi modifier sa trajectoire prévisible. Smith, 28 ans, que certains considèrent comme le meilleur batteur australien depuis la légende Don Bradman, a confirmé que les leaders de l'équipe étaient parfaitement au courant des intentions de Bancroft. Le projet a été fomenté durant la pause déjeuner et le capitaine a reconnu en avoir été le cerveau. Sur les images de la télévision, on a pu voir Bancroft sortir un objet jaune de sa poche et frotter la balle avec. Lorsqu'elles ont été diffusées sur le grand écran, la foule de spectateurs s'est mise à huer. Bancroft a alors semblé caché dans ses poches ce qui s'est plus tard révélé être de l'adhésif jaune. « On m'a repéré à l'écran et du coup je l'ai fourré dans ma poche. J'ai pas mal paniqué », a avoué le joueur à la presse après le match. En Australie, les appels à la démission de Smith se multipliaient, d'aucuns s'interrogeant aussi sur le rôle éventuel de l'entraîneur, Darren Lehman, dans cette sombre affaire. Malheureusement, c'est de la triche pure et simple, et Steve Smith doit démissionner de son poste de capitaine, a déclaré sur les réseaux sociaux l'ancien lanceur Rodney Hogg. La réputation de Steve Smith et celle de son équipe ne vont jamais se remettre de cet épisode, a renchéri le commentateur Robert Craddock. Le responsable de la Fédération Cricket Australia, James Sutherland, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'incident, avant d'éventuelles sanctions. En attendant, Smith et David Warner se sont vus privés de leur casquette de capitaine et de vice-capitaine de l'équipe pour le restant du troisième test match, a-t-il ajouté. Steve Smith a martelé qu'il ne démissionnerait pas, déclarant qu'il était la bonne personne pour ce boulot. Le premier ministre australien Malcolm Turnbull lui-même est intervenu dans le débat. Cela défie l'entendement de voir que des personnalités censées sont censés être des exemples, trichent de cette façon, a-t-il déclaré. Voilà pour l'affaire qui secoue en ce moment toute l'Australie.
Mess with us, karma police, Vous auriez peut-être reconnu la pièce Karma Police, à l'origine par la formation britannique Radiohead, et c'était repris ici par la Canadienne Andrea Superstein.
Merci. Les étudiants d'ailleurs qui achètent ici, ils viennent étudier à Montréal dans les universités, louent un appartement ou achètent un condo, très souvent avec les fonds provenant de leurs parents. Ces étudiants sont des résidents non permanents. Ils sont de plus en plus nombreux à contribuer à la diversité culturelle de la ville et à poser leurs valises dans Griffintown, Le Plateau, Rosemont, Villeray et même Anstick. Ce n'est pas rien, relève Paul Cardinal, directeur analyste du marché à la Fédération des chambres immobilières du Québec, le FCIQ. Les résidents non permanents, qui comptent aussi dans leur rang des travailleurs temporaires et des immigrants en attente d'un statut, comptent pour 42% des nouveaux arrivants à Montréal. Seule la ville de Vancouver, note-t-il, attire un aussi fort pourcentage, 46%, de résidents non permanents. Ce sont de jeunes adultes qui vont éventuellement former de nouveaux ménages et acheter des propriétés, précise-t-il. Si vous marchez sur l'avenue du Mont-Royal, vous allez vite le constater, souligne de son côté Nathalie Clément, qui dirige l'agence Via Capital du Mont-Royal. Il y a une grande vague d'immigration à Montréal et sur le plateau, c'est un fait connu, il y a beaucoup de Français. Elle ne cache pas que leur présence stimule le marché immobilier. Selon elle, le nombre de transactions impliquant des acheteurs venus d'ailleurs a presque doublé depuis 5 ans. Près du tiers de nos transactions impliquent des acheteurs de l'extérieur du Québec. Il y a des Européens, des Asiatiques, des Américains. Chiffres à l'appui, Paul Cardinal confirme que Montréal a accueilli l'an dernier la très grande majorité des 12 000 résidents non permanents qui ont choisi de venir vivre au Québec pendant quelques années ou sur une base permanente. C'est un sommet depuis 1988, alors qu'on avait reçu 23 000 résidents de l'étranger, précise-t-il. Selon lui, la qualité des universités québécoises, francophones et anglophones, est un facteur déterminant dans le choix de ses étudiants. La qualité de vie et le dynamisme de la ville sur le plan économique et de la recherche scientifique pèse aussi dans la balance. Montréal a d'ailleurs obtenu le titre de meilleure ville universitaire au monde l'an dernier, rappelle-t-il. On a devancé Paris et Londres. Il fait allusion à l'étude réalisée par l'Institut Quacarelli Simmons, QS, qui a qualifié Montréal de ville préférée des étudiants étrangers. Ce titre appartenait depuis 5 ans à la ville de Paris. Notons que Vancouver fait partie du top 10, de même que Boston. Un impact mesurable. Cette nouvelle réalité canadienne est également observée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le SCHL, qui a mesuré l'impact de l'arrivée massive des nouveaux résidents sur le marché du logement au Canada et dans 5 régions métropolitaines, Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary et Edmonton. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Entre 2005 et 2015, le nombre de résidents non permanents a presque doublé pour se situer à 759 193 en 2015. À eux seuls, les étudiants étrangers représentaient quelque 52% des résidents venus d'ailleurs, les travailleurs étrangers comptant pour 46%. Fait à souligner, l'étude démontre que ces résidents ont tendance à prolonger leur séjour sur le sol canadien et qu'ils sont de plus en plus nombreux à obtenir leur statut de résident permanent à la fin de leur séjour. Autre élément qui va intéresser les vendeurs de condos, ces résidents ont un faible pour la copropriété et ils payent jusqu'à 20% plus cher que la moyenne des acheteurs locaux.
Une petite brève avant de partir à la pause. Où commence la mémoire de notre enfance? Question existentielle. Eh bien, avant l'âge de 3 ans, les enfants ne possèdent pas de mémoire à long terme, ce qui fait en sorte que l'on ne se souvient pas des premières années de notre vie. Cette amnésie infantile serait due à une importante fabrication de neurones dans l'hippocampe durant cette période. Les jeunes enfants ne possèdent qu'une mémoire à court terme et oublient très rapidement ce qu'ils ont appris quelques jours avant. Ceci explique cela. Nous partons en pause, nous sommes de retour dans quelques petites minutes. Restez avec nous pour encore plus d'articles intéressants. A tout de suite.
Dès aujourd'hui.
Oh,
plus récent extrait de Catherine Durand, tiré de son album La pluie entre nous. La pièce s'intitule Au fond de tes bois.
Et ce qui devait arriver arriva. Le surtourisme. Le secteur admet la surchauffe et propose des solutions. C'est de l'agence France Presse à Berlin. Venise rembarre les paquebots. Barcelone serre la vis aux locations et Dubrovnik impose des quotas. L'hostilité croissante à l'égard du surtourisme inquiète le salon du tourisme de Berlin où les professionnels cherchent des solutions d'urgence. En 2030, il y aura 1,8 milliard de touristes dans le monde. Une chose est sûre, cette croissance infinie est impossible dans un espace qui lui est limité et il y a déjà de plus en plus de conflits visibles, constate Roland Conradi, directeur scientifique de l'ITB, la grand-messe annuelle des professionnels du tourisme. De 1995 à 2016, le nombre de voyageurs internationaux est passé de 525 millions à plus de 1,2 milliard grâce notamment aux compagnies aériennes low cost et aux vacanciers des marchés émergents comme la Chine, l'Inde ou les pays du Golfe. L'année 2017 a, elle, été marquée par une hausse record de 7% du nombre de touristes dans le monde et par des mouvements de rejet inédits du tourisme de masse qui engorge, défigure ou parfois chasse les populations locales de leur lieu de vie. Et les premières mesures n'ont pas tardé. En Thaïlande, les coraux de la célèbre Maya Bay, décor paradisiaque du film La Plage, n'ont pas survécu aux baigneurs et le site est menacé de fermeture partielle. Au Bhoutan, le gouvernement impose des quotas quand le maire de Dubrovnik ne laisse pénétrer dans l'enceinte de sa vieille ville que 8000 visiteurs par jour. 10% du PIB mondial. On parle beaucoup plus du surtourisme aujourd'hui car il s'est renforcé dans quelques destinations, principalement à cause des croisières, explique à l'AFP le professeur d'économie du tourisme Thorsten Kirst. Je recommence son nom parce que je l'ai un peu écorché. Kirst, je l'appelle K-I-R-S-T-G-E-S. Citant le cas de Majorque, où peuvent débarquer 5 bateaux de 4000 passagers qui accostent au même moment pour faire visiter la cathédrale. Le secteur entrevoit au moins 4 pistes pour s'assurer que le tourisme ne s'autodétruira pas. La plus évidente et la plus profitable aux économies locales consiste à mieux répartir les flux des voyageurs. Par exemple, à Venise, 265 000 habitants pour 24 millions de visiteurs par an limite l'accès de sa lagune aux immenses paquebots de croisière. La ville édite aussi un audacieux guide mensuel appelé « Détourisme » qui met en valeur les sites secondaires dans l'espoir de dissuader les touristes de se masser aussi nombreux que les pigeons place Saint-Marc. C'est toujours les mêmes tours, toujours les mêmes sites. Au Mexique, les gens n'en avaient que pour Cancun, mais on a finalement réussi à les amener sur la route des Mayas, explique à l'ITB Gloria Guevara, la présidente de la Fédération internationale du tourisme, WTTC. Elle rappelle que le tourisme représente 10% du PIB mondial et que le quartier envahi de l'un est la source des revenus de l'autre. Autre solution, jouer sur les prix pour dissuader. La Tour Eiffel a aussi financé ses travaux de rénovation en augmentant de moitié son billet d'entrée quand sa jumelle de Dubaï, l'immense tour Burj Khalifa, propose 4 tarifs différents selon l'heure de la journée, le plus cher étant au coucher du soleil. La technologie permet aussi de réguler les flux, notamment à Amsterdam, où un site internet informe en temps réel les visiteurs du temps de queue qui les attend. Bientôt, une application leur dira quel site éviter. Mais internet a aussi propulsé les locations saisonnières de type Airbnb, qui font grimper les prix de l'immobilier et amènent de nombreux fêtards, suscitant l'animosité extrême des locaux, comme à Barcelone. Le mouvement de tourismophobie a ensuite fait tache d'huile. Selon la première étude sur le surtourisme menée par le cabinet McKinsey, 36% des habitants sondés dans des destinations en surchauffe considèrent que les visiteurs internationaux mettent trop de pression sur leur pays. Il y a 6 mois, il n'était que 18%. Enfin, de grands espoirs reposent sur les épaules des 18-35 ans, plus aventureuses que celles des baby-boomers. Cette génération se dispensera davantage par peur d'être déçue en pensant visiter un site unique, puis en réalisant que beaucoup trop de personnes, beaucoup trop d'autres personnes ont eu la même idée, assure le jeune analyste de chez McKinsey.
Et si vous voulez fuir toutes ces foules touristiques, ou même si vous êtes agoraphobe carrément, j'ai un endroit à vous proposer, l'Everest. Un paraplégique s'attaque à l'Everest avec ses mains, c'est donc pour tout le monde, pour tous ceux qui sont courageux en tout cas. Oui. Un Australien en fauteuil roulant ambitionne de devenir le premier paraplégique à atteindre le camp de base, un camp de base de l'Everest, sans aide, lors d'un trek qu'il compte faire en se servant essentiellement de ses mains. Scott Doolan, 28 ans, se lance vendredi, c'était il y a une semaine et demie, à la conquête du versant sud côté népalais, à 5364 mètres d'altitude, généralement accessible seulement à pied ou en hélicoptère. L'homme cherche à prouver que ce sommet peut être atteint aussi en fauteuil roulant. Pour tenter d'y arriver, il va utiliser un fauteuil roulant conçu spécialement avec des roues tout-terrain pour emprunter des sentiers où le passage est possible. Mais il pense se servir principalement de ses mains avec un ami qui va lui porter les jambes, comme dans le jeu d'enfant de la brouette, dit-il. Je vais sortir de mon fauteuil et mon ami Matt va me tenir en me prenant par les chevilles et je vais en fait marcher sur mes mains, ajoute-t-il. Depuis 8 mois, M. Doolan s'entraîne pour ce trek avec des exercices cardiovasculaires et musculaires. Il a aussi passé du temps sur les sentiers des montagnes bleues en Australie, en portant un masque qui limite l'apport d'oxygène pour se mettre dans les conditions de la haute altitude qui l'attendent dans les montagnes de l'Himalaya. Le trek du camp de base de l'Everest commence à Lukla, à 180 km à l'est de Katmandou, et suit une ancienne route de commerce qui relie naguère le Tibet au Népal. Une série de ponts suspendus traverse le fleuve qui longe le fond de la vallée de Kumjung, avec une pente ardue vers le camp de base de l'Everest. Les grimpeurs y escaladent des rochers. Parfois dans la neige ou dans la boue, à une altitude où l'oxygène se raréfie, ce qui peut provoquer des maux de tête et des nausées. Je ne sais pas du tout comment ça va être. Il va bien sûr y avoir des passages que je ne pourrai pas emprunter en fauteuil roulant. Je vais donc en descendre et utiliser mes mains. Ce sera probablement la partie la plus difficile. J'espère que je ne vais pas avoir de mal des montagnes. Le mal des montagnes, dit-il. Environ 5000 personnes effectuent chaque année ce trek au pied du glacier Khumbu, en mettant 8 à 10 jours selon le ministère népalais du tourisme. M. Doolan s'attend à avoir besoin du double du temps pour arriver au sommet. L'homme est en fauteuil roulant depuis l'âge de 17 ans à la suite d'une fracture de la colonne vertébrale consécutive à un accident de moto. Il a fallu ensuite quelques années à ce jeune sportif pour refaire de la gym. Mais ça l'a aidé à prendre conscience de son handicap, dit-il. Par la suite, M. Doolan a rencontré son ami Matt Laycock, créateur de la marque de vêtements Apex Gen, qui s'est également donné pour mission philanthropique de sensibiliser à la santé mentale et au handicap sous le slogan « Dépasse-le ». C'est M. Laycock qui a suggéré à M. Doolan l'idée d'être le premier paraplégique à atteindre le camp de base de l'Everest pour l'essentiel avec ses propres moyens. L'aventure, qui coûte 70 000 dollars australiens, 71 000 dollars canadiens, incluant 15 000 dollars australiens pour le fauteuil roulant de M. Doolan, est parrainé par la société de M. Laycock. C'est en prenant un café avec son ami que M. Laycock lui a donné l'idée. Dans un premier temps, M. Doolan a décliné, mais au bout de quelques semaines, il s'est rallié à l'idée. On peut faire n'importe quoi si on le veut vraiment. C'est ce que j'ai appris jusqu'ici. Votre imagination est votre seule limite, conclut M. Doolan en parlant du défi qui l'attend et dans lequel il est en ce moment embarqué. We'll be right back.
Incroyable. En France, le burger supplante le jambon beurre. Les ventes de burgers présents désormais sur la carte de 85% des restaurants dépassent pour la première fois en 2017, en France, les ventes du traditionnel jambon beurre avec plus de 1,460 milliards d'unités vendues, selon le cabinet Jira Conseil. Cela fait 3 ans qu'on parle d'euphorie, de folie pour le burger, et là, cette année, on ne sait plus comment qualifier cet effet compresseur. C'est de l'hystérie. On enregistre pour 2017 1,460 milliards d'unités vendues en croissance de 9%. Une croissance phénoménale, explique à l'AFP Bernard Boutboul, directeur du cabinet Jira Conseil. Le cabinet publie chaque année ce bilan à l'occasion du salon Sandwich et Snack Show qui se tiendra le 4 et 5 avril, porte de Versailles à Paris. Le burger a, selon M. Boutboul, cet atout de réunir 4 produits que l'on consomme énormément en France. Le pain, la viande, le fromage et la frite, avance-t-il pour expliquer cette hystérie. En 2016, le burger et le jambon beurre étaient au coude à coude. Mais pour la première fois en 2017, le premier passe largement devant le second et tout ça est emmené par le service à table, précise M. Boutboul. La restauration rapide ne vend que 30% des burgers. Le service à table fait en 2017 un raz-de-marée avec 70%. On se demande si le burger n'est pas en train de remplacer en France notre fameux steak frites, s'interroge M. Boutboul. Pour la 3e année consécutive, le jambon beurre perd des parts de marché. 1,215 milliard d'unités ont été vendues, mais il représente toujours 50,8% des sandwichs vendus contre 65% de parts de marché il y a 10 ans. Il est attaqué par les pains qui ne sont pas de la baguette tels que le pain de mie, le pain polaire, aux céréales des bagels, mais aussi le pain fait avec de la pâte et de la pâte à choux, etc. Explique M. Boutboul. Le prix moyen du jambon beurre s'est établi en 2017 à 2,94€, environ 4,71€. Soit plus 38% de taux de change. Paris reste la ville où on trouve le jambon beurre le plus cher avec un prix de 4€, 6,40€ en moyenne, selon le suivi de Lyon et Bordeaux à égalité 3,34€, 5,35€. La ville où il est moins cher est Tulle, qui l'affiche à 2,48€, 3,97€. Selon les chiffres du cabinet Jira Conseil, le sandwich au global s'est vendu en 2017 à 2,4 milliards d'unités, enregistrant une croissance de 1,7%. Il pèse à lui seul 8 milliards 67 millions d'euros, soit 17% du marché de la restauration rapide. Plus généralement, la restauration rapide bat record sur record selon Jira Conseil. Ce segment atteint les 51 milliards d'euros en hausse de 6% par rapport à 2016, plus 13% sur les 4 dernières années et plus 260% sur 13 ans. C'est l'euphorie. On n'avait pas vu une telle croissance depuis un petit moment, s'exclame Bernard Boutboul. La restauration rapide est passée au-dessus du service à table car elle représente 60% de la restauration et pourtant le service à table se porte bien, ajoute-t-il. On vit en France une disparition du fast-food, de la malbouffe, l'arrivée d'une certaine montée en gamme depuis plusieurs années du fait maison avec des produits bruts à des prix assez élevés, dit-il. Même les Américains regardent ce qu'on est en train de faire sur cette restauration rapide gastronomique car ils n'ont chez eux pas autant de diversification dans ce segment de restauration, affirme le directeur du cabinet.
Notre époque est au mélange d'activités, il faut croire. Je vous ai parlé ces dernières semaines de yoga avec des chèvres, par exemple, de yoga avec de la bière également. Eh bien, arrêtez tout, là, on passe dans une autre catégorie, vraiment. Plus de yoga, je vous présente le chess boxing. On s'affronte aux échecs et à la boxe. Torse nu, protection dentaire encore en bouche, mais quelque peu groggy. Thomas Cazeneuve exulte après sa victoire par échec et mat lors d'un combat de chess boxing à Berlin capitale mondiale de cette discipline. Autant futé au pion qu'au point, ce consultant en recrutement a eu besoin de 7 rounds alternant successivement les séances d'échecs, puis de boxe, pour l'emporter sur son adversaire ukrainien. Le tout entouré d'une abondante foule de curieux venus admirer plusieurs combats d'exhibition de ce nouvel opus de l'Intellectual Fight Club. C'était mon combat le plus difficile avec un adversaire très complet, qui m'a bien usé, surtout à la boxe, mais j'ai tenu grâce à mon mental, se réjouit, visage rougi, le Français de 24 ans. Les règles, deux athlètes s'affrontent successivement aux échecs, puis à la boxe anglaise. Au total, 11 rounds de 3 minutes chacun sur un ring. Casque sur les oreilles pour isoler les sportifs des cris du public, ils débutent leur rencontre sur l'échiquier. Au son du gong, les athlètes enfilent gants de protection et protection dentaire, pour s'échanger quelques coups de poing, avant de reprendre leur affrontement aux échecs. La partie se gagne par échec et mat, KO ou en cas de dépassement par l'adversaire des 18 minutes prévues pour les échecs. Et un chessboxer n'est opposé qu'à des athlètes de niveau comparable dans les disciplines. Vous devez être bon dans les deux disciplines, ce qui est très compliqué, mais c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des coups, prévient le néerlandais Jeppe Rubing, organisateur de compétitions de chessboxing. La plus grosse difficulté, la lucidité. Car au fur et à mesure des rounds de boxe, le rythme aux échecs baisse drastiquement, sans compter les gouttes de sueur qui dégoulinent sur le plateau. Se concentrer à nouveau relève alors de la gageure. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, 60% des victoires se font aux échecs, contre 40% à la boxe, poursuit le néerlandais de 43 ans, au look d'éternel étudiant. Grand amateur d'échecs, M. Rubink proposa en 2002 à un ami, après une partie sans vainqueur dans un bar d'Amsterdam, de se départager en boxant. L'idée était née, mais nous étions sobres, précise-t-il. L'inspiration lui vint à la lecture de la bande dessinée d'Enki Bilal, Froid Équateur, de 1992. Dans l'un des épisodes de la trilogie Nicopole, le dessinateur imaginait ce sport dans le contexte d'un Paris futuriste, déshumanisé et corrompu. Dans mon récit, où il est question d'une société obsédée par l'excellence et la réussite, limite fascisante, le personnage principal se demande dans quel sport il peut affronter son adversaire. Aux échecs, sublimant l'intelligence, répond alors la boxe, ce noble art, explique à l'AFP l'auteur français. Réunis, ces sports allient les plus belles capacités de l'humain pour en faire une espèce d'homme suprême, estime-t-il. Contacté plus tard par le fantasque Rubing, qui cherchait à lui rendre hommage, il raconte avoir trouvé assez drôle que cette idée potentiellement absurde devienne réelle. Les chessboxeurs au profil disparate ne prennent pas, eux, leur sport à la légère. L'Allemande Alina Rath, 29 ans, et comptable de profession, est membre d'un club d'échecs depuis 20 ans. Si elle boxe seulement depuis août, elle a aussi toutefois 5 ans d'arts martiaux mixtes derrière elle. Le chessboxing casse les clichés de l'abruti qui ne sait que frapper face au faiblard pur intellectuel, dit-elle, tout en se définissant plus en Garry Kasparov que Mike Tyson, en référence à la légende soviétique des échecs et au célèbre boxeur américain. S'il reste un sport confidentiel, le chessboxing s'est néanmoins mondialisé. Quelques 3500 adeptes se répartissent dans 11 fédérations, allant de la Grande-Bretagne à l'Iran en passant par la Russie ou l'Inde. Quant à Berlin, où est né en 2004 le premier club au monde et qui abrite aujourd'hui le siège de la World Chess Boxing Organization, des combats d'exhibition sont régulièrement organisés. Notre objectif cette année est de créer une ligue professionnelle financée par des investisseurs et des partenaires, explique M. Rubing, qui rêve même de voir la discipline aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Autre projet fou, il a lancé un appel aux compagnies robotiques pour réaliser le rêve du combat de l'homme contre la machine, de l'auteur soviétique de science-fiction Isaac Asimov. Si ce rêve se réalise, je me battrai contre un robot doté d'une intelligence artificielle beaucoup plus fort que nous aux échecs, mais encore relativement faible, question réflexe, avance-t-il. Chaque année, je défierai le meilleur des robots et ma victoire sera à chaque fois plus compliquée car ils s'amélioreront, jusqu'à ce que je perde d'ici 5 ans. Alors, la machine aura définitivement pris le dessus sur l'humain, prophétise-t-il, se voyant déjà, un brin mégalo, combattre pour $1 million sur Times Square.
cuisiner yoga, justement, on en parlait. Cuisiner yoga, c'est signé Samuel La Rochelle. Cuisiner yoga ne signifie pas qu'on mange des graines de chia en équilibre sur une jambe ou dans la posture du cobra, mais plutôt qu'on applique certains enseignements yogiques à son alimentation. Une nutritionniste et une professeure de yoga se penchent sur les principes de la cuisine yoga. Privilégier une nourriture chargée de prana. L'un des objectifs du yoga est d'augmenter son énergie vitale, soit le prana, en langue indienne sanskrite. L'un des moyens pour arriver consiste à choisir des aliments biologiques fraîchement cueillis, cultivés localement, dans de bonnes conditions. Elle apporte toutefois quelques nuances. J'ai vu du couscous bio importé de France, même si c'est biologique, ce n'est pas le meilleur choix si on se préoccupe de la planète. Manger en pleine conscience, porter attention aux saveurs, aux odeurs et aux textures des aliments, prendre le temps de bien mastiquer et de bien déglutir, être conscient de la réception de la nourriture dans son estomac et écouter les signes de satiété. Cela implique aussi d'éviter les sources de distraction, télé, cellulaire, etc., pour se concentrer sur l'acte de manger. Sinon, on n'est que dans la mécanique de remplissage. Ce précepte aide bien des mangeurs à ralentir le rythme. Plusieurs personnes ont tendance à manger trop vite, ce qui nuit à la sensation de rassasiement et à la digestion, note Madame Gravel. Il faut laisser le temps au cerveau et aux intestins de communiquer. En plus, quand on mange consciemment, on s'attarde aux caractéristiques sensorielles. On est plus à l'écoute de nos préférences et plus satisfait. Cela dit, la prof de yoga ne prône pas la tradition bouddhiste imposant les repas en silence. Les repas cuisinés et partagés dans la joie entre amis, c'est important. On peut être pleinement conscient dans le silence, mais c'est faisable aussi dans le partage. Si certains livres de cuisine yogique encouragent le végétalisme et l'élimination du gluten, Karine Gravel est d'un autre avis. C'est très bien d'être à l'écoute de nos besoins, mais il ne faut pas tomber dans les restrictions ni dans la privation. Elle-même végétarienne, Noémie Crépeau ne tient pas à ce que le reste de la planète, le reste de la population, limite absolument. Si ton corps a besoin de viande, donne-lui de la viande. Elle ajoute toutefois qu'il est nécessaire d'analyser les effets de chaque aliment sur son corps. En portant attention à ce que tu ingères, tu vas réaliser naturellement que ton poulet shooté aux hormones n'est pas optimal pour toi. Peut-être que tu peux manger du poulet bio de grains élevés en liberté une fois par semaine et te nourrir de plus de légumes le reste du temps. Au fond, il faut retrouver l'instinct du corps. À propos d'incompatibilité alimentaire, Noémie Crépeau croit pour sa part qu'il vaut mieux faire des tests pour trouver ses propres incompatibilités alimentaires plutôt que de suivre des règles établies pour tous. Les règles alimentaires, c'est compliqué, alors que manger est censé être quelque chose de simple. Et une petite brève. À l'Équateur, pas d'assurance, pas d'entrée. De Stéphanie Morin-Lapresse, tous les visiteurs étrangers qui souhaitent entrer en Équateur doivent désormais prouver qu'ils ont souscrit une assurance médicale pour la durée de leur séjour. Cette nouvelle loi est en vigueur depuis le 6 février, mais une certaine tolérance serait observée jusqu'au 1er mai.
Ce qui conclut cette émission, après toutes ces nouvelles au sujet du tourisme, mais les remerciements, oui, merci à Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et les choix musicaux.
Excellent choix musical.
Toujours comme toujours. Merci à vous, Jean-Charles Algan, pour ces articles intéressants,
merci
comme toujours également.
Très plaisir, très plaisir. Merci Louis.
Et nous retrouvons dans un instant Hélène Denis avec son émission Le Quotidien des Quotidiens. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, mardi, 9h, pour encore plus d'articles. C'était les Voix de Service. Bonne journée à tous.
À bientôt.